Voici Dan Bigra.
C'est le festival des grands bédènes, puis des touristes dans des speedos fluo. On se met une nouvelle couche de peinture après que l'hiver nous a déteints. Il fait chaud. Il fait chaud.
Ouais, ça, on appelle ça les tunes faire chaud. On a Patrick d'Hydro-Québec au bout de la ligne. Salut, Patrick.
Oui, bonjour, M. Bigras.
Oui. Comment ça se passe, vous, avec vos employés? Vous avez des consignes strictes sur ces choses de chaleur-là? Parce que là, ils travaillent souvent en hauteur, dans les fils.
Ben, dans le fond, tu sais, on a beaucoup de travaux, sont diversifiés, nos travaux. Puis, nous, spécifiquement, notre unité est en chantier de construction. On fait exclusivement de la construction... au même titre que n'importe quel employé qui travaille à ce chantier de construction au Québec. Les travailleurs ont toujours des uniformes inifuges en Omex, alors la contrainte thermique est plus élevée. Cependant, nous appliquons des mesures assez restrictives là-dessus dès qu'on a des beaux outils au Québec. Là. On a des utilitaires de calcul des contraintes thermiques qu'on invite tout le monde à utiliser, les donneurs d'ouvrage, puis les conseillers sécurité et prévention... ça se limitait juste à eux autres. Ça donne des chiffres, c'est très facile à utiliser. On met la température, l'humidité, le travail léger, moyen ou lourd. On appuie sur la flèche, puis ça nous donne les mesures de prévention à émettre. On va dire que nous autres, depuis le début de la saison, là, on a fait avec les travailleurs, puis on va dire que les industries qui travaillent pour nous autres, ils sont conscients qu'on est exigeant, sauf qu'ils ils ont évolué dans leur culture santé-sécurité avec nous autres.
Mm-hmm.
Puis hier, on arrêtait les gars, c'était 15 minutes à chaque heure, sans être limitatif. Là. Le gars, il y en a qui sont partis à midi, puis il n'y a pas de... Il faut faire ça, parce que c'est comme monsieur de la FTQ disait, c'est un danger qu'on devrait traiter au même titre qu'un risque de chute en hauteur. Là.
Oui, puis c'est que quand on est en danger par déshydratation, on ne s'en rend pas tout de suite compte. Alors, ça prend vraiment des consignes très, très, très strictes. Je suis content de voir. Il y a sûrement un paquet de chantiers qui marchaient très bien. Là, on a eu un exemple de chantier qui semblait un peu dysfonctionnel, mais il y en a qui marchent très bien. Merci beaucoup, Patrick.
Là,
bonne journée. Je vais vous parler de quelque chose. Alors évidemment, je vais recevoir ma chum France Labelle, qui est directrice générale du refuge des jeunes. On n'est pas en levée de fonds, c'est pas ça du tout. C'est que le refuge se rajoute des mandats à cause principalement, je sais pas, par exemple les jeunes quand ils réussissent à changer des canettes ou à quitter un petit peu, puis les gens donnent moins d'argent, ils ont peur des contacts à cause de la COVID et tout ça, ne peuvent plus payer avec leurs sous. Fait que là, par des chaleurs comme ça, les jeunes qui sont dans la rue se déshydratent et c'est extrêmement dangereux. Et je vais, avec mon amie France, la directrice du refuge, je vais faire un appel au public. J'aimerais qu'on envoie des bouteilles d'eau. On a eu un monsieur Tony qui, j'ai pas réussi à y parler, je voulais le remercier. Monsieur Tony représente une compagnie, il va envoyer des bouteilles d'eau au refuge. Le refuge fait ça. Il distribue des bouteilles d'eau, mais pas seulement à leurs jeunes, eux autres, à toutes les jeunes au centre-ville. France, es-tu là, France?
Oui, bonjour, Dan.
Allô, comment tu vas, toi?
Allô, ça va bien, moi je vais très bien.
Tu survis à la chaleur?
Oui, absolument.
Alors déjà, écoute, cet été, avec ces histoires-là de cartes puis de cash qui étaient plus valables, déjà, vous aviez commencé à faire des boîtes à lunch?
Oui, ben, on a,
ça, c'est nouveau.
Le début de la COVID, on a distribué environ 1000 lunchs à des jeunes et des moins jeunes. Ça veut dire entre 12 et 15 personnes qui viennent à la porte du refuge, qui ne sont pas en hébergement, mais qui viennent pour lunch, bouteilles d'eau depuis quelques semaines.
Mm-hmm.
Services, matériel de prévention, des fois pick and jazz. Donc, ça nous permet aussi de voir certains jeunes qui ne sont pas en hébergement, mais on peut garder un œil sur eux. Alors, ça, c'est important.
Ah oui, donc l'aide d'urgence que tu peux apporter peut faire ce que tu aimes bien faire d'habitude, c'est que ça donne une valeur aux jeunes. Ils se sentent écoutés, ils sentent qu'ils valent quelque chose, ça fait du bien.
Oui, puis c'est l'idée de prendre soin. Hein. Au refuge, on décline ça de plusieurs manières, prendre soin des jeunes. Ça commence par l'accueil, poser un regard, une petite conversation, la petite bouteille d'eau en disant hey, toi, là, viens ici, là.
Oui.
Alors, puis Donc, il y a plusieurs manières d'aider notre monde, là.
Oui, puis leur montrer qu'ils sont importants, c'est surtout ça qui leur manque. L'estime de soi est brisée. Alors, parce qu'ils viennent de tragédies tout le temps, on se ramasse pas dans la rue pour le fun. Je sais pas si j'ai bien donné le numéro de téléphone. Ceux qui ont des idées là pour envoyer des bouteilles d'eau, vous pouvez téléphoner au 514-849-4221 et faites le poste numéro 1. Pas sorcier, il y a un poste. Poste numéro 1. Vous allez tomber dans le bureau de France et de toute son équipe en haut et vous allez pouvoir organiser ça. Je vous rappelle le numéro. On a besoin de bouteilles d'eau urgemment. 514-849-4221, poste 1. Je m'excuse, France. Qu'est-ce que tu voulais dire?
Je disais des petites bouteilles d'eau.
Des petites, pour que ça soit distribuable au plus grand nombre.
Portable aussi pour les personnes. Oui.
Oui. Et là, effectivement, ça te permet d'élargir un peu le cercle. C'est plus juste ta clientèle habituelle, c'est vraiment tous les jeunes. Mais les jeunes sont en danger, là. La déshydratation, si tu as un problème de santé mentale ou si tu as consommé une dope ou quelque chose, tu te rends pas compte que tu te déshydrates, là.
Absolument, tu t'en rends pas compte. Il y a des substances extrêmement addictives. On a beaucoup de jeunes qui vivent des dépendances. Puis qui consomment pas mal. Il y a l'alcool aussi, hein. Faut pas oublier.
Ça déshydrate.
Pour la population globale aussi, l'alcool déshydrate. Puis au gros soleil à 40, alors on a des jeunes qui arrivent à notre porte, sont clairement déshydratés, nauséeux, faibles. Et des jeunes et des moins jeunes, mais là on parle plus spécifiquement de notre population. Alors ils s'en rendent pas compte nécessairement, puis ils sont malades. Alors, c'est très important dans toutes ces situations-là, on ne le dira jamais assez, et on leur rappelle, on les laisse partir avec les bouteilles d'eau, donc on est très, très attentif à ce volet-là, parce que ça peut être grave, ça peut mener à l'hôpital. On veut pas dramatiser de façon absolue toutes les situations.
Non, mais faut dire tous les dangers, dangers, Franck, je te comprends.
On est aussi en prévention. Alors ça, c'est avant que le pire arrive. Puis c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de points de distribution d'eau à Montréal. Avec la COVID, la ville, les CIUSSS ont mis en place certaines mesures efficaces. Mais là, avec le déconfinement, on commence à fermer les lieux. Et on sait aussi que, bon, là, il n'y a pas beaucoup d'endroits qui sont ouverts encore. Puis de toute façon, les populations sans abri n'ont pas nécessairement accès à des restaurants, à des lieux ou même à des toilettes.
Non, mais au centre-ville, ils n'ont accès à aucune toilette. Tous les restaurants, je ne veux pas les blâmer, là, mais je comprends que moi, si je veux aller dans une toilette au restaurant, c'est parce que je suis client de là. Et si je n'étais pas client, je ne pourrais pas rentrer.
C'est ça.
Les portes sont barrées. Alors, ça veut dire que les jeunes n'ont même pas la dignité d'avoir un endroit où aller aux toilettes. Et ça veut dire aussi qu'ils n'ont pas d'endroit frais pour aller se reposer. Et nous autres, on a ça, là. Si je suis tanné, je vais me trouver une place fraîche, puis je vais aller prendre un verre de jus quelque part. Mais ils n'ont pas ça, eux, sauf au refuge, où là, ben vous avez encore la clim, la machine n'est pas pétée, là?
Oui, non, là, on a la clim. Il y a d'autres organismes aussi qui prennent des mesures pour les plus jeunes, les femmes, les plus vieux, pour les accueillir, des endroits où il y a la clim. Donc, on fait tous les efforts. Il y a aussi, faut le dire, ça s'est amélioré. Là, il y a quelques endroits où il y a des toilettes, il y a des installations sanitaires.
Ah oui, ça commence.
On a fait des représentations dans les dernières années. On a beaucoup insisté. Et là, donc, il y a quand même des améliorations. Mais c'est pas suffisant, là. Il y a beaucoup d'abreuvoirs aussi qui sont pas en fonction à cause des risques de contamination.
Oui.
Alors, ça complexifie. Puis, qui vit toujours les ressacs? Ben, c'est sûr que c'est les populations les plus vulnérables, hein, les plus isolées.
Ben, toujours.
Dans la rue, c'est toujours...
Ça le dit, elles sont vulnérables.
Exact.
Déjà là, on comprend qu'elles payent en premier.
Ben, c'est certain. Alors, il faut poser un regard là, très, très pointu quand il y a une pandémie, quand il y a une canicule, quand il y a des grands froids. Ça, c'est c'est la base, là.
Canicule, pandémie, il y a tout en même temps, là.
Exact. Là, vraiment, les populations les plus vulnérables sont très, très éprouvées. Ils sont très éprouvés, puis en même temps, c'est paradoxal parce que ils sont habitués, hein, à des situations extrêmes. Le froid, la chaleur, les constants déplacements, les rencontres pas toujours heureuses avec d'autres citoyens, parfois avec la police, des fois ça va mieux, d'autres fois non. Donc, d'une certaine façon, ils sont peut-être même plus résilients que d'autres populations qui n'ont pas connu ce genre d'extrême et de grandes difficultés. C'est étonnant. Moi, ça m'étonne toujours de voir comment, dans cette période de crise, moi, c'est la pire crise que j'ai vécue en 30 ans parce qu'elle persiste, elle est plus longue. Mmh. Il y a eu des ondes de turbulence importantes en 30 ans, mais celle-là, c'est une crise qui perdure. Alors, donc, il y a beaucoup, beaucoup d'incertitudes.
Mais les gens ne savent pas, mais je veux dire, on a eu très peur de fermer pendant un bout. C'est extraordinaire que tu aies réussi à tenir le fort. Parce que si l'épidémie pognait dans le refuge puis tout le monde était infecté, c'était un désastre total. Puis tu as réussi à tenir ça, je ne sais pas trop comment.
Une équipe formidable, vraiment. On est restés ensemble. On ne devrait pas dire soudé, parce qu'il y en a qui vont dire « Ah, il n'était pas en distanciation, il était soudé. » Non, on était soudé.
Ben moi, je peux te dire, par exemple, que je suis en amour avec ton équipe. Tu sais, le mercredi, les réunions d'équipe, là. Puis là, on voit toute l'humanité de tous les gestes, puis de ceux qui acceptent, parce qu'on s'entend dans le communautaire, il n'y a personne qui va là pour faire des millions, qui travaille pour des petites payes. Tout le monde, y compris toi, tu serais du bonne augmentation tant qu'à moi, mais bon, c'est un autre sujet, on en parlera plus tard. mais tout ce monde-là qui travaille comme des malades, puis qui travaille dans la détresse humaine et qui réussissent à faire ça, beaucoup dans le bonheur.
Oui.
Donc, vous déteignez beaucoup au refuge sur vos jeunes. Vous les faites sourire, vous les faites rire. Je vois ça, moi, quand j'y suis à chaque fois. Ça fait partie de l'intervention aussi. Puis faire rire quelqu'un, c'est s'en occuper.
Exact. Puis c'est pas parce qu'on ne peut pas être dans le misérabilisme à tous les jours, même si la misère est très, très présente. Oui. Parce que c'est pas la misère qu'on rencontre à tous les jours, c'est des humains qui vivent ça. C'est aux humains qu'on s'adresse, puis on est en rapport, on est en lien, et c'est ça la force et la beauté de ce qu'on fait comme travail. C'est ça le sens aussi, hein. On n'est pas des héros, on n'est pas exceptionnels, on est des gens qui vont à la rencontre des plus mal pris. Et
vous avez tous une raison personnelle de le faire. J'en parlais avec Jean-Luc Mongrain tantôt, hors d'onde. Mais je me rappelle, tu m'as chicané la première année, puis je me sentais coupable de monter un show, mais de pas être intervenant. Puis t'étais agacé. Ouais. T'as dit, voyons, travaille donc d'où ce que t'es bon.
C'est
alors, et vous avez toute votre raison d'être là. Mais c'est des raisons nobles qui font qu'on se rend heureux en participant à quelque chose qui fait partie d'une solution. C'est important dans la vie, puis c'est certain que ça nous touche des zones sensibles à nous d'être là, puis c'est comme ça que l'aide est plus personnelle aussi,
et plus
proche et plus touchante. Parce que le refuge, moi, c'est pas un endroit de misère, c'est un endroit de résilience.
Absolument. Puis ça, c'est très, très puissant. Puis ça c'est une façon d'endiguer un peu là, l'espèce de morosité ambiante. Là. Tu sais, quand on commence à faire l'inventaire de tout ce qui va mal, là, et c'est infini.
Oui.
C'est infini tout ce qui va mal. Mais quand on est dans le quotidien, dans le sens avec les personnes, puis qu'on grignote un petit peu à chaque jour les ondes de désespérance là, en faisant quelque chose, ben ça fait du bien aussi. Puis c'est pas vrai que tout va mal tout le temps, là. C'est vrai, moi, mon métier, je suis rompue à voir ce qui va mal, hein?
Oui.
On me parle de ça, mais il y a aussi toute la beauté, la créativité. Alors, au moment où on se parle, j'ai des bénévoles qui sont en train de faire des sandwichs pour nous aider, parce que les bénévoles sont plus à l'intérieur depuis le début de la COVID. Mais de l'extérieur, j'ai des gens qui m'aident. J'en ai qui sont venus porter des vêtements. Là, on va en avoir qui vont nous envoyer de l'eau. Alors, il y a une chaîne de solidarité autour, et ça fait du bien. J'ai reçu des dons. Donc, au début de la COVID, on était seuls. On était seuls dans le désert de la ville pendant 3 semaines. Mais après, on a senti le mouvement qui s'organisait autour. Et ça, c'est de la beauté. C'est du sens. C'est du véritable. C'est des choses qui peuvent changer.
Moi, j'ai toujours cru que c'était que les jeunes, ça pouvait leur faire du bien, même s'ils ne voyaient pas les gens qui les aidaient, juste de savoir qu'ils existaient.
Exact.
Moi, je revenais avec des paires de mitaines, des tucs, des fois, puis je voyais qu'ils étaient touchés. Ça avait été fait pour eux, pour personne d'autre qu'eux.
Ça.
Ah, ils étaient touchés. Je rappelle à tout le monde qu'aujourd'hui, c'est une urgence. Évidemment, moi, je pourrais vous parler du refuge pendant 12 émissions, mais aujourd'hui, on a besoin de bouteilles d'eau au refuge, parce que le refuge a pris cette job-là, en plus à la job normale, de distribuer en canicule des bouteilles d'eau à des jeunes qui sont en détresse et qui risquent la déshydratation au centre-ville. Alors, pour aider, vous pouvez noter bien le numéro 514-849-4221 au poste numéro 1. Et on parlait avec France Labelle, qui est directrice générale du refuge et qui est distributeuse d'eau aujourd'hui. Merci beaucoup, ma super France, puis j'ai hâte de passer te voir. Puis évidemment, le câlin, on se le fera après à maudite fièvre,
oui,
mais
oui.
J'ai super hâte de te voir. Prends soin de toi.
Merci à tout le monde aussi. Au
oui, revoir. Merci beaucoup. Alors, je voudrais ouvrir les lignes de 1, la distribution d'eau pour les jeunes. Si vous avez des idées, dites-nous-les. Même si vous n'avez pas retenu le numéro du refuge, on va tout vous aiguiller ici, on va tout arranger ça. Puis on veut savoir aussi comment vous passez au travers de la canicule. Vous pouvez me rejoindre directement au 514-790-9850 ou si vous êtes en dehors de la ville de Montréal, le 1-866-790-9850, je le dis à l'envers. Je suis fatigué, c'est la fin de semaine qui s'en vient. Je vous reviens tout de suite après la pause.